21h passée de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le traditionnel rendez-vous de votre émission littéraire. C'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et ce soir, c'est la francophonie qui va s'exprimer et je suis heureux de l'accueillir une fois de plus à bord de Wagon Livre. C'est notre écrivain québécois, Christian Bilodeau. Bonsoir Christian.
Alors bonsoir Yannick. Alors c'est un plaisir pour moi aussi d'être de retour.
De retour parce que, en fait, nous nous étions rencontrés en 2015, au moment où tu étais en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay, et tu étais venu nous parler de ton premier roman, qui avait pour titre, et qui a toujours pour titre, « Au pays d'Alexandre ». L'émission avait été diffusée sur Radion début juin 2015. Nous sommes le 21 décembre 2016, et tu es devant le micro ce soir, pour nous parler de ton deuxième roman, parce que tu as aussi une activité de poète parallèlement, mais ton dernier roman disponible aux éditions La Semaine a pour titre « Mémoire à la mer ». Et je précise qu'on est très heureux de te retrouver, parce que tu es venu depuis fin octobre de cette année, tu es revenu faire un petit séjour, un petit exil, mais un exil heureux en France, pays Absolument. Auquel tu es très attaché. Et tu as loué un condo, comme on dit au Québec, un appartement à Clamecy dans la Nièvre.
Un petit studio dans la Nièvre à Clamecy.
Alors Christian, avant de donner la parole, il me faut quand même rappeler que tu as été communicateur, gestionnaire culturel au Québec, du centre Félix Leclerc. Tu as largement contribué à la création.
Oui.
On est d'accord. Tu as vécu avec la fille d'ailleurs de Félix Leclerc, une histoire d'amour qui a duré ce qu'elle a duré, mais.
Bah, elle a duré 8 ans.
Tu as connu Raymond DeVos, Serge Reggiani, tu as un lien très fort avec la France, ne serait-ce déjà que par l'origine de tes ancêtres. Est-ce que j'en ai dit trop sur toi ou pas assez?
Non, je pense que c'est bien, parce que s'il faut davantage élaborer sur mon cursus, mon curriculum vitae, j'ai l'impression qu'on passera à côté peut-être de l'objectif de l'émission, alors c'est parfait.
L'objectif de l'émission, comme tu le rappelles, Christian, c'est ton dernier roman, en attendant le troisième,
ouais, qui est déjà écrit.
De bonnes mains ou entre de bonnes presses.
Bah, ouais.
Mémoire à la mer. Mémoire à la mer... Ce roman débute en fait par un constat statistique, un constat terrible, qui nous précise qu'en 2025, plus de 34 millions d'humains dans le monde seront atteints d'une maladie sournoise et insidieuse qui est l'Alzheimer, donc cette maladie dégénérative du cerveau. Je commence par des chiffres, mais je te donne la parole parce que tu as mis en scène un homme d'une cinquantaine d'années qui est atteint de cette maladie d'Alzheimer. L'action se situe au Québec. C'est un homme qui a construit, réussi sa vie socialement, qui a deux belles jeunes filles dans sa vie, qui a tout pour lui, en tout cas tout pour être heureux, jusqu'à ce que, effectivement, on détecte, suite à un diagnostic médical chez lui, donc, les troubles de l'Alzheimer débutant. Christian, d'abord, pourquoi t'être emparé d'un cas de maladie et d'un sujet aussi grave?
Une raison tout à fait à laquelle inattendue même. Alors, je suis à l'écoute d'une émission qui s'appelle « Par quatre chemins », une émission qui est sur les ondes de Radio-Canada. Et l'animateur, le journaliste émérite, qui depuis des années et des années... apporte aux Québécois et aux Québécoises à l'antenne, apporte la connaissance sur des sujets variés, des sujets complexes, et surtout, il travaille beaucoup sur un mot à lequel on a la difficulté maintenant à dire, c'est le mot « âme ». Et c'est un homme qui touche l'âme, la conscience de ses auditeurs. Et puis, il nous annonce, à brûle pour point, qu'il doit quitter l'antenne après 40 ans de travail, et de travail journalistique, de recherche et de diffusion auprès de ses auditeurs. Et il nous annonce qu'il a quitté parce qu'il est atteint d'une maladie dégénérescente qui s'appelle l'Alzheimer. Alors, moi, ça me touche. Ça crée chez moi une émotion tout à fait particulière. Et cette émotion s'est traduite par le goût d'écrire, bon, sur l'Alzheimer, parce que effectivement, comme vous disiez en introduction de l'émission, c'est une maladie sournoise, insidieuse, qui amène l'humain jusqu'à la dégénérescence et jusqu'à la mort. Et évidemment, selon chaque cas, des fois, il y a des cas qui sont plus rapides en termes de dégénérescence, d'autres cas prennent plus de temps. Mais j'avais le goût d'écrire un roman à partir de cette fragilité, de cette tare, qui effectivement touchera quand même 34 millions de personnes dans quelques années. Mais j'avais le goût d'approcher cette fragilité. Et je me suis posé la question, comment conjurer ce temps qui s'appelle le passé et qui font des actes de l'oubli. Ce sont des temps qui font en sorte que on devient un être de l'oubli. Alors comment ne pas devenir un être de l'oubli avec cette maladie qui s'appelle l'Alzheimer? Alors je l'ai approché d'une façon philosophique, poétique, comme un romancier, comme un poète. J'ai voulu trouver la sente qui mènerait mon personnage principal à inventer une façon de se sortir de cette maladie. Et comment laisser une empreinte? Comment laisser une trace de soi? Et quand il a appris cette dégénérescence neurologique, évidemment, c'était le choc. Comme vous disiez précédemment, c'est quelqu'un qui a tout dans la vie. Il a un bureau d'architecte, il a son meilleur ami de bonne aventure en Gaspésie avec lequel il est associé. Il y a deux magnifiques filles de 23 à 24 ans, universitaires, en bonne santé, qui réussissent bien. Il y a une relation avec la maman, avec la mère qui est très, très
Apaisé,
riche,
apaisé aussi,
très apaisée.
séparé,
Ah
certes,
ben
mais
oui, absolument. Très apaisée et qui n'est pas conflictuelle du tout, au contraire même, qui s'inscrit même dans une forme de, je dirais, de collaboration, d'aménité. Alors voilà. Alors, en somme, un homme d'une cinquantaine d'années qui a à peu près tout pour être heureux. Et qui du jour au lendemain, apprend cette dégénérescence qui, finalement, se manifeste doucement, dans la lenteur, mais dans la lenteur qui fait que, malgré tout, ses filles prennent conscience, ils disent à leur père, mais papa, il y a quelque chose, ça va pas, là. Tu oublies souvent des choses et tout, tout. Tu devrais, il nous semble, aller voir un neurologue. Et c'est à partir de ce constat neurologique, après quelques temps d'attente, qu'il revient chez lui, désemparé, je dirais, un peu perdu, finalement, par rapport à cette fragilité. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, après mûre réflexion, d'écrire son récit, d'écrire sa vie. Quoi de mieux que, pardon, un roman ou un écrit ou un récit pour laisser une empreinte.
Alors justement, ce qui est aussi intéressant, mais on en parlera après la pause musicale, c'est que cette maladie va déclencher un changement de vie chez cet homme qui prend conscience tout d'un coup que peut-être la vie consciente avec la puissance de sa mémoire est très importante, il a une sorte de volonté de carpe diem, du profite de l'instant présent. Il a la chance d'avoir un niveau social très très correct, donc il va décider de quitter la grande ville, de partir dans un lieu isolé, un lieu de silence, mais un lieu de beauté. Mais on en parle avec toi, Christian. Je rappelle, c'est Christian Bilodeau, notre écrivain québécois, qui évoque ce soir dans Wagon Livre son dernier roman, Mémoire à la mer. On y revient dans une poignée de minutes, et puis le temps de nous nous éclaircir un peu la voix, Christian. Une petite pause musicale et on retrouve nos auditeurs.
D'accord.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità. Felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va. Come un sorriso che sa di felicità.
La radio che va, e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, e una telefonata non aspettata, la felicità, felicità,
felicità, e una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore, la felicità, e aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, c'est votre émission littéraire sur votre radio locale. C'est notre ami québécois Christian Bilodeau qui nous accompagne. Tout va bien, Christian?
Absolument, mais la voix revient. J'espère que les auditeurs vont s'en rendre compte et aussi que ma voix doucement commence à revenir. Je pense que c'est peut-être l'air de la Bourgogne, l'humidité à laquelle, malgré que je suis québécois, habitué à des degrés... inférieur à moins 10, moins 20, moins 30 en plein hiver. Il reste que, bon, l'humidité, moi, ça a un petit impact sur moi.
Revenons au personnage de ton roman, intitulé « Mémoire à la mer ». Alors, ce quinquagénaire, Émile Leblanc, donc on en a parlé avant la pause musicale, doit faire face à ce verdict médical. Il a la maladie d'Alzheimer, pardon, mais à ses débuts, juste à ses débuts, et là, il décide de donner un nouveau souffle à sa vie et lui vient le désir de coucher sur le papier un roman très largement autobiographique. En tout cas, c'est l'idée de départ.
Absolument. C'est d'abord un récit de vie. C'est un récit de vie où il se raconte, où il réalise aussi... un rêve d'écriture à laquelle la vie ne lui avait pas permis de pouvoir s'y arrêter ou de pouvoir s'y pencher. Et voilà que, effectivement, pour écrire ce récit, Ils décident de se retrouver sur une île qui s'appelle l'île Aubernache. Cette île Aubernache, qui est située aux confins du fleuve Saint-Laurent, là où s'ouvre la mer et se dirige vers la France et l'Europe.
C'est à 4 heures de route de Montréal, à peu près.
Nous avons 4 heures de route de Montréal. Lui, c'est Montréalais, du plateau Mont-Royal. Et il quitte... D'abord, il fait une recherche sur Internet pour trouver une maison tout à fait... un antre d'écriture chaleureux, dans un endroit plus beau que beau, plus grand que nature, où la faune et la flore s'expriment dans toute la force des paysages et du pays, où la mer ceinture cette île, et où il pourra trouver le silence dont il a besoin, la quiétude dont il a besoin pour écrire ce récit et ce souvenir. Parce qu'au fond, l'opacité de la mémoire, à quelque part, tue la conscience. Et ce que j'ai voulu aussi, par ce roman, c'est une prise de plume où on s'arrête à réfléchir sur le rôle de la mémoire via la conscience humaine. Nous sommes des êtres conscients dans la mesure où le passé nous habite. Nous sommes la résultante de tous ces souvenirs, de toute cette mémoire sensorielle ou à tout le monde. De tout ce qu'on a vécu, fait en somme que nous avons la conscience, le regard affûté de telle façon, dépendant évidemment de ce que la vie nous a réservé dans le passé.
Ce qui aussi est très charmant, c'est cette volonté de la part d'Émile d'essayer de revenir un peu sur le passé, son propre passé, sur ses origines, c'est essayer d'amasser le trésor de sa propre existence avant peut-être le grand naufrage que pourrait provoquer la maladie dans les années à venir.
Absolument, parce que en écrivant son récit de vie, ça lui permet aussi un retour à l'enfance, ça lui permet de revenir sur cette mémoire de cette mémoire qui finalement l'a construit, lui a permis d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais l'homme qu'il est aujourd'hui au temps présent, il a l'impression que le seul temps maintenant qui lui reste, à lequel il est imparti, c'est le temps présent. Mais ce temps présent, s'il est dénaturé, il est désincarné du passé, pour lui, ça n'a aucun sens. Alors, tant qu'il est capable à la fois d'être dans les deux temps conjugués, le passé et le présent, il veut profiter évidemment au maximum de cette possibilité qui lui est encore offerte de pouvoir s'exprimer. Alors, c'est l'écriture, c'est son récit qui l'amène sur une mémoire du passé jusqu'à au mot fin de son roman.
L'écriture est la passerelle entre le passé et l'instant présent que Émile vit dans sa petite maison.
Bah, c'est la sente à laquelle il s'est arrêté pour exprimer et puis, je dirais, faire en sorte que cette mémoire ne le tue pas totalement et qu'il puisse laisser à ses enfants, à ses amis, le souvenir de son passage, tant qu'il est capable encore de partager cette mémoire.
Alors, ce que je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, Christian, c'est que cette île Aubernache, elle n'est accessible qu'en hélicoptère, en motoneige ou à pied. Donc c'est un isolement voulu, choisi et revendiqué par Émile pour se consacrer à l'écriture. Juste une question qui te concerne toi, bien sûr, Christian. Est-ce que tu es tenté ou as-tu dans un tiroir ton propre récit de vie que tu gardes pour toi, c'est-à-dire l'écriture pour soi plutôt que partager avec des lecteurs? Est-ce que tu as produit surtout des œuvres de fiction, même si je soupçonne que certains de tes personnages te ressemblent beaucoup? Mais écrire, parler de toi, écrire, est-ce que tu l'as fait?
Oui, moi j'ai écrit, j'ai à peu près, tout près de 1000 pages d'écrites sur ma propre existence, sur les différents segments de ma vie. Mais j'avoue, très honnêtement, et je le dis aussi franchement à ce micro, que c'est, en ce moment, ça ne m'intéresse pas d'écrire de l'autobiographie ou sur ma propre vie ou sur mes fragilités. Je préfère plutôt aller dans des histoires à raconter où, effectivement, comme vous le disiez, par le biais de certains de mes personnages, il y a aussi mon regard. Et c'est tout à fait impossible que mon regard n'y soit pas, parce que c'est moi qui écris le roman. Quoique les personnages ont leur propre existence, aussi décident même à l'occasion de certains, je dirais, de certaines façons qu'ils veulent réagir. C'est pas vrai que j'ai toute la décision, la latitude de décider tout le temps. Des fois, ils s'imposent, ils appellent les personnages aussi. Mais écrire sur moi, en ce moment, non, c'est sur mes fragilités ou sur ma vie ou je vois pas beaucoup d'intérêt, d'abord pour le lecteur lui-même aussi. Vous savez, de façon, les gens qui écrivent sur eux-mêmes, pour qu'un éditeur puisse y trouver un intérêt, il faut d'abord que ce soit des gens extrêmement connus, très très connus. Si on est plutôt, si on n'a pas vraiment cette notoriété. Bon, d'une part pour le monde de l'édition, mais moi je l'ai fait pour moi-même, alors c'est fait. Je le partage pas nécessairement avec le public.
Il y a une petite scène ravissante au moment où notre héros, ayant appris qu'il est atteint d'Alzheimer, va montrer la maison qu'il va louer sur l'île Aubernache. Il est accompagné de sa fille, et je crois que c'est Maude, hein, me semble-t-il.
Oui, c'est Maude.
Et elle trouve un objet naturel dont la charge me semble hautement symbolique et très encourageante pour le personnage.
Oui. Alors, effectivement, quand ça arrive sur l'île d'Aubernache, bon, le lecteur assiste à la description physique des lieux, des sensations que cette île procure à Maude et à son père, Émile. Et puis, arrive sur le parvis de la petite maison où Émile... cet antre d'écriture où il va pouvoir trouver la solitude et la beauté qu'il a besoin pour écrire son récit de vie. Et Maud fait remarquer à son père qu'au-dessus du cadrage de la porte d'entrée principale, il y a un nid d'oiseaux. Et elle demande au propriétaire qui vient faire visiter la maison, qui est un homme d'une armature importante et surtout une grandeur très grande. Alors, lui, il va chercher le nid d'oiseau. Et dans ce nid, on y trouve, c'est qu'il est un nid d'hirondelles, on y trouve, bon, des brindilles, il va de soi, mais on y trouve aussi, au fond, un trèfle à quatre feuilles. Et pour les auditeurs, ben, vous le savez qu'un trèfle à quatre feuilles, c'est signe de chance. C'est ça a une symbolique, une charge symbolique extrêmement puissante. Pour ceux qui croient en cette symbolique, parce qu'en général, ce sont des trèfles à cinq feuilles. Alors déjà là, sur le plan onirique, sur le plan de la métaphore, ou sur le plan poétique, pardon, il y a déjà là un signe. Est-ce que c'est la dédicace du destin? Est-ce que c'est un message que l'île passe à Émile? Pour lui dire « Bienvenue, vous êtes sur une île de beauté et à laquelle vous êtes conviés pour que vos mots y trouvent pleinement leur sens et que votre mémoire puisse être capable de vous livrer et de livrer qui vous êtes. » Et voilà, et Maude, en découvrant ce trèfle à quatre feuilles, a ce sentiment que son père vient de découvrir un endroit un peu hors du commun.
Nous reprendrons cet échange avec Christian Bilodeau, auteur de Mémoire à la mer. On marque un nouveau temps de pause musicale et on se retrouve avec notre invité, c'est Wagon Libre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion, bien sûr.
En ce qui concerne les insectes.
Plus que quelques jours avant Noël, puisque nous sommes le 21 décembre, c'est Christian Bilodeau qui nous accompagne aujourd'hui sur Radion pour ce roman « Mémoire à la mer », alors paru chez un éditeur canadien, québécois plus précisément. C'est les éditions La Semaine, mais on peut le commander aisément.
Sur Amazon ou tout en numérique ou en papier, livre papier, ils font la livraison et Amazon ou Kindle ou peu importe.
Et pas besoin de le payer en dollars canadiens. On peut le payer en euros.
Vous avez la chance d'avoir un euro qui est extrêmement intéressant pour vous en ce moment via des achats à l'extérieur du pays.
Christian, on a beaucoup parlé de la maladie d'Alzheimer, on a parlé de l'exil, mais un exil enchanteur sur cette île où les conditions de vie sont tout de même un peu rudes en hiver.
Absolument. Évidemment, c'est une île qui est située un peu en amont de Rimouski. Et comme vous disiez en introduction, une île qui, en plein hiver, est accessible par l'hélicoptère, par la motoneige ou par des sentiers balisés en ski de fond, ou en été par ce qu'on appelle un ferry, un bateau, qui transporte des visiteurs jusqu'au phare, jusqu'à cette île, aux bernaches.
Alors, je crois qu'il faudrait peut-être expliquer ce qu'est une bernache, parce que nous, en France, à moins d'avoir une grande culture, mais expliquer ce qu'est une bernache.
Une bernache, c'est l'équivalent de l'outarde.
C'est une forme d'oie ?
Oui.
C'est ça, hein ?
Absolument.
C'est ce qu'on appelle l'oie des neiges, ou c'est autre chose ?
Non, c'est pas l'oie des neiges. C'est une bernache... ça ressemble à l'outarde. La bernache ressemble à l'outarde.
Alors, puisqu'on parle d'animaux, il y a un homme sur l'île aux bernaches qui est le gardien du phare, un vieux monsieur. Tu nous avais dit en juin 2015 que tu n'aimais pas la vieillesse, mais que tu étais attaché et très respectueux des personnes âgées, des vieilles personnes.
Ouais.
Pourquoi donc ? Et là, c'est un lien aussi avec les mémoires, hein, d'ailleurs. Bon. Car nos anciens ont des mémoires.
Oui. Bon, moi, ce que j'ai dit en introduction, je me rappelle lorsque j'ai fait votre émission pour échanger avec vous sur Au pays d'Alexandre.
On avait parlé de Raoul, en fait.
Bon, j'ai parlé de Raoul, qui était un personnage, bon, premièrement, vrai que moi, comme personne, je n'aime pas la vieillesse. Je voudrais surtout pas devenir une peau de chagrin. Bon, c'est une expression, une image forte qui peut peut-être courroucer des personnes d'un certain âge. Remarquez que moi, je commence aussi doucement à être à l'automne, presque au début de l'hiver de ma vie. Mais Au pays d'Alexandre me permet de poser un regard tout à fait différent. Et c'est Raoul, le personnage, qui s'est imposé à moi. Il m'a appris les choses, ce personnage. Il m'a fait réfléchir. Alors, dans « Mémoire à la mer », le gardien de phare, qui est un homme de 80 quelques années, capitaine de goélette, de bateau de bois sur le fleuve Saint-Laurent, où on transportait des marchandises à l'époque, un homme qui est de nature, un homme, je dirais, plus grand même que nature, et le gardien de phare de cette île, il la protège, il protège les bateaux contre les récifs qui peuvent rendre prisonniers les capitaines les plus aguerris. Et mon personnage le rencontre. Et dans sa langue, d'ailleurs dans le roman, je lui prête des paroles tout à fait comme le personnage pourrait être sur cette île. Il parle comme un vieux de 80 quelques années avec tous ses patois, son régionalisme gaspésien et tout et tout. Alors voilà, et c'est un beau personnage, et j'avais le goût de le mettre en scène dans ce roman, parce qu'à la fois, il aime bien Émile, il trouve courageux de venir vivre sur une île d'hommes forts, finalement, parce qu'il faut être solide pour vivre dans des îles aussi tempétueuses en hiver, aussi chicanières, même parfois en hiver. Hein.
Donc, ce gardien du phare est un peu la mémoire de l'île, d'une certaine manière.
Absolument.
Et le phare est une sorte, à mon avis, d'éléments immobiliers très importants, puisque ce phare, l'écriture est un peu le phare d'Émile, et le phare est un peu la mémoire de l'île.
Voilà, absolument. On peut faire ces liens entre cette symbolique du phare, qui guide les marins, les capitaines, mais qui était aussi, dans le regard posé par Émile, une représentation finalement, de la mémoire.
On parle beaucoup de mémoire ce soir, et pour cause. Il y a un personnage dans Mémoire à la mer qui dit « j'ai une mémoire de loup ». Or, on a plutôt tendance à dire, à parler de mémoire d'éléphant, mais le loup a aussi, Amarok a aussi une grande mémoire.
C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre la géographie où se situe le roman. C'est-à-dire, au Québec, une mémoire de loup, c'est très employé. Oui, on emploie aussi mémoire d'éléphant, mais mémoire de loup, parce que les loups, le loup a une mémoire absolument incroyable, une mémoire olfactive, visuelle. Alors, souvent, c'est une expression qu'on emploie, une mémoire de loup.
Concernant la mémoire des animaux, d'ailleurs, il y a cette amorce de réflexion. Est-ce qu'une bernache ou une oie des neiges peut perdre sa mémoire, notamment dans des migrations? Ça, c'est une vraie question.
C'est une question à laquelle il faudrait poser peut-être à un scientifique ou quelqu'un qui observe les déplacements de ce type de faune migratoire. Ce que je ne souhaite pas derrière aucune bernache. De toute façon, vous savez, les bernaches ou les outardes ou les oies, ils voyagent en groupe. Alors, ils s'entraident aussi probablement parce que, ils sont un peu comme un cerf-volant. La première va donner le coup d'envoi, va faire un certain nombre de kilomètres, et puis c'est une autre qui la remplace pour toujours être capable d'avoir un envolé suivi, un rythme suivi, parce que le long de leur débattue, et j'ai envie de dire, ils sèment et couvent les rêves jusqu'à leur pays migratoire, jusqu'à l'horizon, pour y revenir. Alors, en ce sens-là, la bernache, pour moi, comme écrivain, et pour Émile, elle est signifiante.
Il y a aussi quelque chose à rappeler, c'est la devise du Québec, qui est intimement liée avec le thème de la mémoire.
Je me souviens. Je me souviens. C'est une devise importante, oui, c'est vrai. Mais je me pose la question jusqu'à quel point cette mémoire collective n'est pas altérée par la société de consommation individualiste dans laquelle nous vivons tous en démocratie occidentale, que ce soit ici en France, en Europe, en Amérique. Et au Québec, j'ai l'impression que cette mémoire est altérée. Et moi, personnellement, ça me chagrine de voir que on ne se souvient pas assez. Et d'ailleurs, le roman que je viens de terminer, qui s'appelle Terre de souche, est justement un hommage à cette France, entre autres à des Bourguignons, mais aux Français, qui sont venus bâtir le Québec d'aujourd'hui. Et je considère que les Québécois d'aujourd'hui doivent se souvenir que la France a aussi contribué à faire que ce que le Québec est. Alors, c'est vrai que moi, la mémoire, ça a beaucoup d'importance dans mes écrits, en tout cas, du moins les deux derniers manuscrits.
Il est question aussi, c'est page 95, dans Mémoire à la mer, de la mémoire vengeresse de notre planète. Là, c'est une approche un petit peu écologiste de notre Terre, de Gaïa, qui conserverait en mémoire les mauvais traitements que l'humanité parfois lui fait.
Moi, si j'étais la Terre, j'avoue que je ne peux pas dire que la présence de l'homme me rendrait très heureuse. Je crois que les hommes prennent pour acquis que la Terre leur appartient. Nous en sommes que des... Nous sommes des passagers. On a le devoir de la protéger, de lui faire attention, de ne pas la maltraiter, comme on le fait souvent, malheureusement. Et cette Terre n'a pas besoin de nous. La Terre n'a pas besoin des hommes. Pas du tout. on n'y serait pas, puis la Terre s'en porterait peut-être même mieux à certaines occasions. Alors voilà, c'est dans cet esprit de ramener l'homme à sa juste dimension, de ne pas croire qu'on est plus grand que grand par rapport à cette planète ou à tout le reste, mais d'avoir au moins l'acte d'humilité de dire merci et de prendre soin de ce qui nous est offert, parce qu'il y a des coins de cette planète qui sont des véritables paradis.
Un tout petit passage, donc dans extrait bien sûr de Mémoire à la mer. La marche de retour est sous le signe de la lenteur de l'observation. Une envolée d'oies des neiges crie son départ vers le sud. J'ai toujours l'impression qu'elle nous salue, nous remercie d'avoir conservé ce grenier qui fait office de garde-manger au cours de leur migration. Depuis que je vis ici, je ressens une véritable communion avec la nature. Je pense à leur mémoire inscrite dans leurs gènes à la naissance. Parfois, je me demande si une oie sauvage, une bernache, peut perdre sa mémoire migratoire. Il faudrait que je fasse une recherche. Eh bien, nous, Christian Piotto, nous allons faire une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes, toujours à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Notre invité ce soir à bord de Wagon Livre, c'est Christian Bilodeau, écrivain québécois qui a fait une halte de, on va dire, 4 mois à Clamecy, dans la Nièvre, revenu en France, hein, sur la terre de ses ancêtres, car les racines sont en Bourgogne et Christian Bilodeau y tient énormément. Il tient aussi entre les mains son dernier roman, qui a pour titre « Mémoire à la mer », disponible en librairie ou en commande sur le site internet des éditions La Semaine. On peut donc se le procurer aisément. Christian Bilodeau, j'ai l'impression que Hélène Grimaud, la célèbre pianiste, musicienne et également aussi écologiste, parce qu'elle protège et aime beaucoup les loups et pas que les loups, j'ai l'impression que c'est ta muse.
Oui, effectivement. C'est un coup de cœur tout à fait inattendu. Moi, je suis dans une quête de beauté. Bon, comme romancier, comme poète, ce qui me touche, j'ai cette quête de beauté. Et j'ai fait cette rencontre d'Hélène Grimaud par la voix des sites d'Internet sociaux et tout. Et quand j'ai commencé à découvrir, d'une part, son Rachmaninov opus 18, et que j'ai vu l'intensité de son jeu et l'émotion qui l'animait et l'intensité, elle m'a complètement chaviré, touché. Et j'ai découvert par la suite qu'elle était aussi écrivaine. Mais elle a une plume tout à fait hors du commun. C'est une femme d'exception. C'est... Et vous trouvez peut-être que je suis assez dithyrambique par rapport à tout ce qu'elle peut représenter. Évidemment, c'est une femme d'une grande beauté que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement. Mais son écriture m'a vraiment touché. Vraiment, vraiment. Variation sauvage et tout et tout. Et en plus, elle s'occupe parce qu'elle aime des loups. Et elle a écrit sur la mémoire, Hélène Grimaud, française d'Aix-en-Provence, qui vit aux États-Unis, mais qui demeure pour la France une des grandes ambassadrices de France. Et si j'étais français, je serais très fier d'avoir une Hélène Grimaud comme fille du pays, comme fille du pays de la France.
Alors, dans « Mémoire à la mer », tu fais une citation,
ouais,
d'un écrit d'Hélène Grimaud, c'est la fille de Amy, notre quinquagénaire atteint d'Alzheimer, qui, je crois, lui lit cet extrait.
Oui, absolument, c'est Maude. Maude qui aime l'écriture et qui fait découvrir à son père cette écrivaine qui s'appelle Hélène Grimaud. Et comme son père, évidemment, a des problèmes neurologiques au niveau de l'Alzheimer, elle lui écrit ce qu'Hélène Grimaud a couché sur papier, cette pensée. Alors, vous permettez que je vous la lise?
Volontiers, Christian.
Oui. La mémoire est un oubli qui se souvient. L'oubli, une mémoire qui, d'être en rapport avec l'essentiel, laisse une trace plus proche du signe que du silence. Et d'ailleurs, l'une des définitions de la musique serait peut-être d'être ce signe qui s'efface jusqu'à devenir une vibration silence. Pour l'écriture de ton récit, voilà une pensée très inspirante sur la mémoire, l'oubli, plus qu'un silence, un signe. Tu aimes papa? Alors c'est Maude, évidemment, qui intervient dans son père. Tu aimes papa?
Alors Émile, il aime aussi la lecture, il aime les poètes, hein, il relit Baudelaire, Hugo, Verlaine.
Oui, oui.
Il écoute Brel et il écoute celui que tu appelles le poète des grands vents, des grandes marées et de l'immensité des horizons de mer,
c'est Gilles Vigneault. Oui. Ah bah absolument.
Leclerc aussi.
Ouais, mais Leclerc est plus un poète terrien. Il est moins aérien. Gilles Vigneault est un poète davantage aérien, davantage d'eau, de grands horizons de mer et du pays. Gilles Vigneault est un poète du pays. Tandis que Leclerc est davantage du terroir de la terre. Ce qui n'empêche pas Félix d'être extrêmement universel, même encore aujourd'hui. Même pour ceux des jeunes générations qui le lisent, va encore trouver dans ses chansons ou dans sa littérature. Mais Vigneault, il est tout à fait spécial. Et il colle bien, il aime bien s'harmoniser à cette île, au Bernache, où mon personnage, Émile, écrivait, a écrit sur sa vie.
Alors, ton personnage aime aussi écouter Aznavour, Ferré, Gainsbourg. Ce sont aussi tes propres goûts musicaux, Christian?
Absolument. Je veux dire, oui, parce qu'au fond, j'ai pas fait, disons que j'ai pas apporté à Émile des personnages ou des artistes avec lesquels moi, j'étais pas en accord. Tous ces personnages sont des gens moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Alors, il y a tout au long du roman des réflexions sur le sens de l'existence, sur la vie. J'ai relevé par exemple ceci, la vie est pleine de rebondissements inattendus pour ceux et celles qui se tiennent debout dans devant l'adversité. Pardon. C'est aussi une belle leçon d'amour et de courage, ce roman, Mémoire à la mer.
Oui, oui, c'est une leçon d'amour et de courage. Bon, sans tomber dans une philosophie, disons, trop grande ou exacerbée à ce moment-ci. Mais moi, je crois vraiment que le courage, il doit faire partie, il doit être intégrante de la vie humaine. On ne peut pas faire une vie sans courage, sans avoir le goût de se tenir droit debout devant l'adversité, devant le bonheur aussi, parce que apprivoiser le bonheur, c'est aussi quelque chose. Mais dans ce récit, Mémoire à la mer, oui, c'est une leçon de courage, c'est une leçon de se tenir droit debout, de faire face à l'adversité, et de ce courage, de cette détermination, de ce regard, souvent naît des formes de printemps en fleurs, de renaissance.
Dans l'émission de juin 2015, Christian, tu disais que ne pas réaliser ses rêves est un délit de fuite regrettable. J'avais noté cette citation de toi.
Je le pense toujours. De toute façon, ouais. Parce que je crois que, d'une part, un rêve, bon, faut qu'il soit accessible. Je veux dire, je pense que l'intelligence vient s'harmoniser avec le cœur, avec la vision qu'on peut avoir pour soi-même. Il faut d'abord évaluer son coffre à outils, évaluer ce qui nous manque et voir si on a le courage, la détermination d'aller chercher ce qui nous manque pour réaliser nos rêves. Mais je pense que chacun a la possibilité de réaliser ses rêves, mais dans la mesure de ses capacités et dans la mesure de ce qu'il peut apporter à lui-même. Au fond, c'est une quête de soi.
Page 70, tu écris « Nous sommes tous des collectionneurs de petits bonheurs que nous engrangeons dans la mémoire du cœur pour que le dernier moment venu, nous quittions cette vie avec la certitude d'être allés au bout de notre voyage intérieur. » Christian, tu n'es pas encore allé au bout de ton voyage intérieur, mais c'est quoi le voyage intérieur?
Ben, le voyage intérieur, c'est le voyage qui mène à soi, qui mène à la conscience. La conscience qui détermine, et je reviens très souvent sur le mot, j'espère que les auditeurs n'en sont pas gavés et fatigués, mais c'est le mot regard. Pour moi, tout s'explique dans la façon dont on est en relation avec le monde, le regard qu'on pose sur soi et sur le monde. Et ce bout du voyage intérieur, cette quête de beauté, de spiritualité, c'est vers ça. C'est vers cette quête que moi je tends comme être humain, comme citoyen, comme personne humaine. Cette quête de beauté, cette quête de ce voyage. Parce que j'ai vraiment la conscience que je suis sur un voyage, à la fois dans l'éphémère, mais à la fois dans ce présent où s'enracine le réel.
On a bien compris que dans Mémoire à la mer, le héros atteint d'Alzheimer va se livrer donc à une entreprise d'écriture sur lui-même, et puis il va finalement rédiger un roman. L'écriture est salvatrice, l'écriture est thérapeutique. Mais je reprends la citation d'une femme que tu aimes bien, c'est Marguerite Duras, qui dit « Il faut être plus fort que ce que l'on écrit ».
Oui.
L'écriture ne permet pas tout quand même, alors. Il faut aussi compter sur le corps et sur le mental et le moral, donc.
Moi, je crois vraiment en une énergie. D'ailleurs, il y a des mots qu'on emploie, l'âme, l'esprit, le cœur. Je crois beaucoup dans les âmes et je crois dans la force de l'âme qui est le souffle de vie. Bon, l'esprit complète l'âme, s'harmonise avec l'âme. Mais pour moi, le souffle de vie, l'énergie vitale de chacun d'entre nous part de l'âme. Et à ce sens, effectivement, l'écriture ne peut pas être à elle seule le porte-parole de l'âme ou de l'énergie vitale ou de l'esprit ou de cette vision qu'on a pour la suite des choses. Évidemment, il y a d'autres formes d'expression. Et l'écriture... Je pense que la musique... d'après moi, c'est peut-être la musique qui permet l'élévation la plus grande et l'émotion. La palette, je dirais, des couleurs de la musique sont tellement larges. Si vous écoutez Beethoven, Brahms, Rachmaninov, peu importe, tous les grands auteurs-compositeurs nous dévoilent encore davantage. Je pense que la musique, elle est plus universelle encore que l'écriture.
Et l'amour est omniprésent aussi dans ce roman. Alors, il y a les filles, il y a Maude, la fille du narrateur, qui aime un homme plus âgé qu'elle, mais l'âge n'a pas de... le cœur n'a pas d'âge et l'amour n'a pas d'âge non plus.
Non, c'est vrai. Sauf que, évidemment, dans des grandes différences d'âge, comme dans Mémoire à la mer, où Maude tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, bon, les probabilités de succès, ou dans la durée surtout, sont toujours un peu plus fragilisées. Mais il reste qu'effectivement, le cœur n'a pas d'âge et on peut aimer à tout temps. Mais pour moi, l'amour, de toute façon, peu importe, j'ai appris de l'existence humaine, mais ça c'est mon expérience, c'est mon regard, que... Peu importe la notoriété, peu importe le compte en banque, peu importe tout et tout, ce qui demeure le plus essentiel à l'homme, c'est ce sentiment d'amitié ou d'amour qui le nourrit. Et entre autres, encore davantage l'amour humain, pour moi, c'est une vraie révélation à l'humanité. Et c'est elle la grande révélation à l'humanité.
Alors, je rappelle que ton premier roman avait pour titre « Au pays d'Alexandre », déjà aux éditions La Semaine. C'est l'histoire d'un père qui se réconcilie avec un fils et il jette un objet à la mer.
Ouais.
Le deuxième roman a pour titre « Mémoire à la mer ». Et là aussi, si on a bonne mémoire, quand on est un bon lecteur de Christian Bilodeau, il y a une passerelle entre le premier roman et le deuxième parce qu'il y a... un objet Émile et sa jolie infirmière qu'il aime tant vont retrouver. La boucle est bouclée. C'est aussi un bel exercice de mémoire pour les lecteurs.
C'est un clin d'œil.
Un petit clin d'œil sympathique.
Oui, c'est un pigment de paupière pour le lecteur qui a lu au pays d'Alexandre. Et cette bouteille à la mer est retrouvée à la fin complètement du roman. Et voilà que sur les battures, parce que vous savez, et vous me permettrez, Yannick, de terminer sur ça, vous savez que finalement, avant qu'Émile écrive le mot « fin », il l'a fait seulement 10 ans après, avoir terminé son... Parce qu'au fond, à quelque part, soyons de bon compte, j'ai voulu que la mémoire, la mère joue un rôle, la mère protège Émile. Parce que la mère aime la quête de beauté d'Émile, aime le fait qu'Émile soit là, présent dans sa relation avec la faune, la flore, et qu'il vienne à tous les jours la voir, la mer. Alors, la mer aussi, sur plein...
Les vagues semblent chasser la maladie en même temps.
Absolument. Et tant qu'il est sur l'île, il n'y a pas de problème. Il est protégé. Mais aussistôt qu'il sort de l'île, c'est terminé. La fragilité neurologique reprend.
Mais c'est aussi un peu la dénonciation de la vie en milieu urbain, un petit peu.
C'est quoi?
Et l'éloge de
c'est l'éloge
de
du bonheur. Non, mais c'est l'éloge de la quête de la beauté. C'est cette quête du beau, cette quête qui est du bonheur. Qui fait que, est-ce que, et la question, je la terminerai sur ce qui, je terminerai l'émission, si vous voulez, sur cette question. Est-ce que le bonheur, est-ce que le fait d'être bien, d'être sur la voie d'une quête de beauté, qu'est-ce que d'être habité par cette beauté peut faire en sorte que la fragilité va s'amenuiser, ou du moins dans la durée va prendre plus son temps?
Ce sera en tout cas le mot de la fin. Merci Christian d'avoir été à bord de cette avant-dernière émission de l'année 2016. Je rappelle.
Ouais, ben merci de m'avoir invité.
Merci au Québec d'avoir été ce soir devant le micro. Christian Bilodeau, Mémoire à la mer, donc disponible aux éditions La Semaine. On rappellera donc Au pays d'Alexandre, qui était ton premier roman.
Ouais.
C'est 2014.
2014, 2015 celui-ci. Et puis l'autre,
2017, vraisemblablement, un nouveau texte, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Merci Christian d'avoir été avec nous ce soir. Rendez-vous mercredi prochain, 28 décembre. Nous vous proposerons un entretien avec Stéphane Hoffmann, auteur d'un roman intitulé « Un enfant plein d'angoisse et très sage ». Comment raconter des choses graves en faisant rire ? C'est un petit peu le pari de cet écrivain.
Ah ben, c'est bien.
C'est le programme de Wagon Livre, mercredi prochain. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année, Christian. Et merci encore d'avoir illustré avec tant d'enthousiasme la francophonie ce soir à notre micro.
Alors, merci de votre invitation.
Au revoir à toutes et à tous.